à tous. Défendre, c'est épuiser l'idée du mal. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une réflexion sur les figures du bien et du mal, sur les principes de justice et sur l'injustice, avec notre invité, l'avocat pénaliste Maître Thierry Illouz, qui publie « Même les monstres » aux éditions de l'Iconoclaste. Il sera avec nous à partir de 12h55. Avant cela, David Frey repasse son bac. D'abord, c'est l'un des pianistes les plus doués de sa génération. À 37 ans, il retrouve son compositeur fétiche, l'allemand Jean-Sébastien Bach, dont il célèbre l'art de la transcription dans un album qui vient de paraître chez Warner Classics Erato, les concertos pour 2, 3 et 4 pianos de Bach avec l'ensemble des cordes de l'orchestre du Capitole de Toulouse. Un album enregistré là-bas, à la chapelle des Carmélites. Il sera ce soir, David Frey, en concert au Théâtre des Champs-Élysées à Paris pour une carte blanche. Et il est à écouter tout de suite sur France Culture, bien sûr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour David Frey.
Bonjour.
On n'a jamais fini d'apprendre, disait Schumann. Avec Bach, est-ce qu'on a plutôt jamais fini de désapprendre ce qu'on savait déjà et de réapprendre autrement ?
C'est une bonne question, surtout que en tant que pianiste, donc jouant par définition un instrument qui n'existait pas, et encore moins sous cette forme-là, sous la forme actuelle, à l'époque de Bach, quand j'ai commencé à jouer Bach, il a vraiment fallu, quelque part, oui, que je désapprenne, pour justement essayer de trouver une couleur, un son, un phrasé qui corresponde à cette musique-là, et qui ne la trahisse pas, tout simplement.
Vous disiez, on n'en finit jamais d'apprendre avec Bach. Est-ce qu'on n'en finit jamais d'apprendre aussi avec ses propres interprétations ? Dans ce sens, est-ce qu'on peut dire qu'une interprétation n'est jamais définitive, qu'elle est toujours inclue dans un processus ? Vos propres interprétations,
absolument.
David
Frey. Je pense que l'idée d'achèvement en art est une idée très, très intéressante, parce que moi je ne suis qu'un interprète, entre guillemets, mais même pour un créateur, à quel moment décide-t-il qu'un livre est terminé ? À quel moment décide-t-il qu'un tableau est achevé également ? Bon, mais il y a un moment où je pense qu'une interprétation est prête à être simplement servie à un public. Voilà, ça je pense que oui, il y a un moment où moi je sens que c'est... je suis prêt à aller, entre guillemets, affronter un public. Mais si vous voulez, ça ne veut pas dire que l'interprétation est achevée, qu'elle est gravée dans le marbre et qu'elle ne va pas évoluer.
On va entrer dans la danse avec un extrait du concerto pour 3 claviers.
Thank you.
Est-ce que vous pouvez parler sur votre propre musique, David Frey ?
Est-ce que
vous pouvez parler sur votre propre musique ?
J'ai du mal à parler sur la musique en général, que ce soit un qui joue ou quelqu'un d'autre. Oui, non, je préfère l'écouter.
Donc vous pouvez nous expliquer, nous raconter ce morceau, cette sicilienne ?
Ah, c'est un morceau très surprenant parce que et assez compliqué pour nous, en particulier pianistes modernes entre guillemets, c'est que on doit jouer la même chose en fait. Les trois pianos jouent exactement la même partie pendant cette sicilienne et le piano 1 que je joue ensuite joue ces variations que vous entendez qui sont accompagnées de petites gouttelettes aux autres pianos et c'est un morceau je trouve qui a vraiment une magie. Assez incroyable parce qu'il commence l'air de rien, effectivement, comme une sicilienne, un peu comme ça, un peu mélancolique, mais dont tous les pianos jouent la même chose. Et puis tout d'un coup, le piano 1 s'extrait de cette masse et puis il commence à broder cette ligne extrêmement gracieuse. Et je trouve que c'est surprenant de voir aussi à quel point Bach avait été capable de poésie, en fait. En entendant ça, parce que l'image de Bach, je trouve, est parfois trop exagérément associée à une sévérité, à une aridité qui est sans doute justifiée par la rigueur absolue de son langage. Mais si vous regardez ce que sert ce langage en termes d'expression, c'est parfois même une grande sensualité aussi, d'une grande douceur. Et ce morceau en est un bon exemple.
Et pas la discipline nécessaire pour l'interpréter, vous l'avez souvent raconté. Vous fréquentez Bach depuis longtemps, parce que c'est pas vraiment le compositeur des débuts pour un pianiste, Bach. On dit qu'on finit plutôt souvent sa vie avec Bach, ça reste assez compliqué.
Disons que Bach est un des rares grands compositeurs à avoir très bien écrit pour les enfants. Il y a les petits préludes des fugues que certains de vos auditeurs ont peut-être joué. Et il y a Schumann aussi, je trouve, et puis Mozart. Bon. Mais ce sont ces trois grands compositeurs qui ont écrit des œuvres, en tout cas d'abord assez simples, mais qui sont d'une grande beauté également. Donc j'ai quand même commencé par Bach aussi, c'est-à-dire que j'ai joué des inventions de Bach, des choses comme ça quand j'étais très jeune. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé à être un peu plus aguerri, Bach n'était pas le compositeur à l'époque qu'on considérait comme étant indispensable pour un pianiste. C'était pas un répertoire de piano, a priori. C'était un répertoire qui était censé être aussi un peu didactique. Comme le sont d'ailleurs un peu au conservatoire, je me souviens d'en avoir parlé avec des collègues violonistes, les sonates et partitas pour violon seul. Et certains ne veulent pas les jouer parce que ça leur rappelle tout simplement les examens. Bon, mais c'est pas parce qu'on a fait de Bach, et d'ailleurs à juste titre, la meilleure école qui soit en termes de phrasé, d'écoute, d'intonation, de tout ce que vous voulez, que ce compositeur doit être cantonné à un rôle de didacticien aussi brillant soit-il. Non, c'est la plus belle musique du monde. Quoi.
Et alors le fait de ne pas l'interpréter sur des instruments d'époque, justement, de l'interpréter au piano, c'est aussi une manière de le redécouvrir, de tenter de faire sonner ces partitions de Bach, ces concertos, avec le son de l'époque.
Moi, avec Bach, le choix que j'ai fait, on peut le contester ou pas, mais c'était d'essayer d'enjamber un peu le problème, finalement, de style qui était lié à l'instrument. D'essayer de rejoindre, si tant est que ça soit possible, mais une sorte de vérité intemporelle et indémodable de l'œuvre de Bach. J'ai essayé, et depuis toujours, j'essaye de faire en sorte qu'on se dise pas, tiens, ça a été enregistré dans les années 70, ou tiens, ça, c'est plutôt une interprétation. Je pense qu'il y a un noyau dur dans cette musique-là, qu'on peut essayer d'aborder en ayant en tête l'instrument, par définition la voix, qui lui ne s'est jamais démodé, si vous voulez, qui n'a jamais connu de différence de facture. Donc il faut essayer de détacher cette musique-là d'un contexte qui pourrait finalement la réduire. Il ne faut pas la réduire, il faut au contraire l'ouvrir.
Bach laissait assez peu d'indications sur ses partitions. Alors est-ce qu'il faut louer l'absence de contraintes chez Bach ou au contraire la déplorer ? Je vous propose d'écouter d'abord le point de vue du critique musical Jacques Drillon.
Il faut rendre ce qui vous prête. Ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est que quand vous regardez la musique de Bach, il n'y a pas d'indication. Il n'y a pas, une nuance, il n'y a pas une liaison, pratiquement pas, il y en a très très peu. Bon. Et le résultat qu'on entend la plupart du temps est identique chez tout le monde. Alors que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Enfin, tous les pianistes sont libres, les violonistes. Alors que quand on voit Debussy, qui met des indications partout, extraordinairement précises, incroyablement utiles, dès qu'on se pose une question, eh bien, il a mis la réponse, c'est simple. Là, on a de très très grandes différences. Alors pourquoi la liberté entraîne la une espèce d'académisme, et au contraire la contrainte debussiste permet la liberté? C'est un grand mystère. Je pense que les musiciens ne sont en train de crever d'une espèce de respect du texte qui est tel que bientôt on ne pourra plus la jouer, quoi, cette musique. On l'encadrera, on la mettra au mur, et encore la regarder, je sais pas si ça sera permis, mais il faut surtout plus y toucher du tout. Et ça, c'est, pour moi, c'est la mort, enfin, c'est, voilà, c'est, on en sortira plus, quoi.
C'est un paradoxe que souligne Jacques Drillon. Peut-être êtes-vous d'accord ou pas avec lui. Est-ce que la liberté du compositeur peut restreindre celle de l'interprète, voire le mettre dans l'embarras?
Moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, en musique, le cadre que vous offre le compositeur en termes de nuances, en termes d'indication de phrasé, etc., est le premier pas vers la liberté, paradoxalement. Effectivement, je pense que on peut facilement, en tant que musicien, être désarçonné par une absence absolue d'indication. Ça, c'est absolument juste. Le problème, c'est que Bach, on peut dire effectivement que les partitions sont vierges. Enfin, si vous lisez très attentivement les partitions de Bach, vous vous rendez compte que il y avait quand même des codes à l'époque. Il y a quand même des choses que vous pouvez deviner. Mais est-ce que tout le monde joue Bach de la même manière? Moi, j'ai pas forcément l'impression. Je pense que quand vous passez vraiment beaucoup de temps avec cette musique-là, que vous la digérez réellement, vous pouvez la faire advenir d'une manière tout à fait différente. Mais ça demande beaucoup de temps. Et ça demande aussi une absence de, comme le disait monsieur, une absence de crainte muséale pour ce qui est tellement révéré universellement.
Mais vous avez pourtant, vous aussi, souvent souligné l'importance de ne pas trahir le compositeur dans votre interprétation.
Bien sûr,
et comment
absolument.
Savoir alors si vous respectez le compositeur et ce qu'il a écrit quand il n'y a presque aucune indication? Qu'est-ce qui est de l'ordre du subjectif? Vous avez raconté une fois avoir interprété devant son créateur une œuvre. C'était à l'occasion d'une rencontre avec Pierre Boulez. Vous imaginez parfois qu'il vous écoute, Bach, jouer ses concertos, qu'il vous donne son avis sur l'interprétation que vous en faites aujourd'hui?
Non, je n'irai pas jusque-là, mais par contre, je me pose à chaque instant la question de savoir si ce que je fais me semble être en contradiction ou pas avec l'esprit de ces œuvres. Parce que ce qui vous reste quand vous avez si peu d'indications, c'est pas la lettre, finalement. La lettre, c'est quoi? C'est simplement les rythmes et les notes, les hauteurs de son qui sont marquées. Ce qui vous reste, c'est l'esprit. Et cet esprit-là, il faut l'habiter. Il faut avoir ce courage-là. Il faut aussi avoir le courage de se dire que c'est une possibilité, ce n'est pas la seule. Il faut, une fois qu'on a compris ça, à mon avis, après on peut être relativement libre. Oui.
Les concertos que vous avez choisis, David Frey, pour ce disque, pour cet album, sont nés de transcriptions, la plupart par le compositeur lui-même. Transcrire, adapter, arranger ses propres œuvres, c'est assez courant. Transcrire celles des autres, ici c'est le cas notamment du concerto pour violon de Vivaldi, ça pose la question de la nature de ces partitions. Vous les qualifieriez comment? Est-ce que c'est des citations, des plagiats, des inspirations, des hommages?
Plutôt des hommages. On sait que Bach a admiré énormément les compositeurs italiens. Les transcriptions qu'il a faites sont des transcriptions de compositeurs italiens, Marcello, Vivaldi, etc. Ce sont des hommages, et en même temps, ce sont des réinventions géniales. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand vous avez des claviers, avec deux mains, par définition, à chaque clavier, et que vous transcrivez un concerto pour quatre violons, eh bien, le violon est un instrument par définition beaucoup moins polyphonique, évidemment, que ne l'est le clavier. Donc, il a dû ajouter, il a dû trouver des solutions pour que ce quatre violons puisse être entendu avec quatre claviers. Je veux dire, c'était quand même une drôle d'idée à la base, parce qu'il a remplacé un instrument qui est peu polyphonique par un instrument qui, lui, l'est énormément. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment un hommage, parce que il faut aussi remettre dans le contexte un certain nombre de choses. Le concerto, à la base, c'est une forme qui est née donc en Italie et qui n'était pas une forme au départ avec un instrument soliste qui conversait ou qui s'opposait éventuellement à une masse orchestrale. C'était pas ça le concerto. C'était une œuvre orchestrale, tout court, sans soliste. Et dans l'histoire de la musique, il y a un moment important qui a été le cinquième concerto brandebourgeois de Bach. où soudainement le clavecin qui joue le continuo dans le concerto tout d'un coup prend son envol, prend son indépendance, je dirais, et vous avez des cadences absolument folles et furieuses dans le cinquième concerto brandebourgeois qui tout d'un coup signe une sorte de démarcation, une sorte d'envol, encore une fois, de l'instrument qui, à la base, était l'instrument du continuo. C'est l'instrument qu'on n'entend pas, l'instrument qui fait la ligne de basse avec les harmonies accompagnées du violoncelle. Et tout d'un coup, il y a eu cette arrivée de ce que c'est que concertare. Concertare, c'est-à-dire converser ensemble. Voilà. Et ces concertos en sont l'émanation directe.
Et c'est en cela qu'on dit que Bach est souvent un précurseur, un pionnier du concerto.
Bien sûr,
pour clavecin, oui, oui. Pour clavier. Et ainsi va, vous venez de l'évoquer, du concerto pour quatre claviers qui ouvre le disque. Dans ce mouvement-là, David Frey, est-ce que vous retrouvez l'humeur du moment? Est-ce qu'il reflète bien celle du temps de l'enregistrement? Cet album, je le disais, a été enregistré à la Chapelle des Carmélites à Toulouse. Et est-ce que vous sentez cet effet d'entraînement du groupe? Parce que là, on est à quatre claviers.
Oui, vous savez, les musiciens, d'ailleurs pas seulement les pianistes, mais c'est pratiquement, ça n'arrive jamais que l'on joue à quatre solistes. Jamais. Donc cette œuvre-là, elle est emblématique de ça, d'une sorte de partage, de joie communicative, de faire de la musique ensemble. Et effectivement, quand j'entends ça, je me retrouve dans cet été assez étouffant de chaleur à Toulouse, dans cette chapelle avec des peintures sublimes sur les murs et sur les plafonds. Et l'orchestre du Capitole qui nous accompagnait, il y avait vraiment une joie de partager la musique pendant cet enregistrement qui j'espère transparaît dans le disque, mais moi en tout cas je m'en souviens et elle est encore présente, oui, pour moi.
Le pianiste David Frey, notre invité à l'occasion de la sortie de son nouveau disque, les concertos de Bach pour 2, 3 et 4 pianos.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Un partage, vous avez dit le mot, David Frey, parce que vous avez enregistré ce disque avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, mais aussi entouré de votre professeur au conservatoire, Jacques Rouvier, et de deux anciens camarades, Audrey Vigoureux et Emmanuel Christian. C'est un album de famille, en fait, que vous avez réalisé là, oui.
Réellement, oui. Mmh. Oui.
Et là, c'est vous qui dirigez.
Oui,
c'est,
alors...
C'est pas la première fois.
C'est pas la première fois, mais le mot de diriger doit être quand même mis en... un peu en perspective, on a affaire à un...
Parce que diriger son professeur, c'est pas vraiment imaginable.
Non, mais là, je parlais de la direction par rapport à l'orchestre, disons, déjà, pour commencer. C'était un travail chambriste. Alors après, moi, j'ai essayé de coordonner tout ça pour qu'il y ait une cohérence et pour que donner la couleur que le disque a aujourd'hui. Mais quand vous jouez, en plus, j'ai sans arrêt les mains occupées, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de moment où je m'arrête, finalement. Donc, je peux pas les diriger en même temps que je joue, les musiciens du Capitole. Donc, je les dirige avec le regard, avec la tête. Mais, c'est vraiment une école de l'écoute, là aussi. C'est pour ça que je parle de musique de chambre. La musique de chambre, c'est écouter l'autre et savoir comment lui répondre.
Dans un entretien, d'ailleurs, vous avez dit cette chose assez fascinante pour un néophyte. Le virtuose n'est pas celui qui joue vite, mais celui qui entend vite. Vous vous rappeliez l'importance de cette connexion main-oreille. Tout passe par les oreilles,
oui,
avec vous.
Oui, hein. Absolument. C'est-à-dire que jouer vite, c'est un phénomène mécanique. Mmh. Entendre vite, là, vous êtes connecté au vivant, quelque part. Jouer vite, un robot peut le faire. Entendre vite, non. C'est autre chose. Et puis entendre, ça veut dire le faire passer à travers votre corps. Pareil avec les tableaux, on voit pas la même chose dans un tableau. On n'entend pas la même chose dans une œuvre musicale. Et donc cette subjectivité-là, qui est nécessaire, qui est créatrice aussi, il faut l'assumer. Et elle passe avant tout par ce que vous entendez d'abord dans une œuvre musicale. Qu'est-ce qui compte pour vous quand vous écoutez cette œuvre-là? Qu'est-ce que vous en retenez? C'est quoi votre priorité quand vous voulez la servir à un public? Ça, c'est fondamental.
Jacques Rouvier, ancien professeur, le vôtre hein, au conservatoire et puis aussi de Claire Désert ou encore d'Hélène Grimaud, il a participé à l'enregistrement de cet album. Écoutez-le parler de son rôle de prof.
Il y a évidemment les dons manuels, hein, naturels, pianistiques naturels. Et puis il y a tout ce qu'il y a avec, c'est-à-dire le goût, la culture, l'intelligence... Et la façon dont tout ça se développe. Et c'est bon, dans ce sens-là que bon, le prof intervient en général et doit essayer de mettre sur les bons rails. Et puis après, on fait une partie du chemin ensemble. Hein. Mmh. Moi, j'ai toujours considéré ça. Hein. Je dis toujours, oui, on a fait un bout du chemin ensemble. Et puis après, oui, si le matériau s'est vraiment bien construit, eh ben, ça débouche sur des choses fantastiques.
Alors, il souligne l'importance du goût en musique.
Oui, il a raison d'ailleurs.
Vous avez réussi à définir vos goûts à vous, David Frey?
Non, mais là, il ne parlait pas forcément de mes goûts ou des goûts en général.
Non,
il parlait du goût.
Oui,
ça,
du
c'est
goût.
Beaucoup plus mystérieux. Le goût, comment on forme le goût? Comment on acquiert ce qu'on peut appeler du bon goût? Puis le goût qui est, comment dirais-je, qui correspond à cette musique-là ou à cette partition-là en particulier, parce que vous n'avez pas une manière de jouer Bach ou un goût pour jouer Bach. Lui-même écrivait des œuvres dans le goût français, dans le goût italien, dans le goût allemand, dans le style, on aurait dit aussi.
Mais d'ailleurs, est-ce qu'il faut tendre vers le bon goût comme on tendrait vers le beau pour
mais
un
le
peintre
bon, je sais pas si le terme de bon goût d'ailleurs est adapté. Le bon goût, le bon, donc dans ce cas-là, sert le beau. C'est-à-dire le bon est au service du beau. Ce qui est bon doit être beau. Moi, c'est ça que j'entends là-dedans. C'est-à-dire, nous, les interprètes, on doit servir la beauté d'une partition musicale. Voilà. Et on doit trouver le meilleur moyen, avec nos propres caractéristiques, que cette beauté-là surgisse. C'est ça notre travail, rien d'autre.
Et donc ça, c'est le rôle du professeur, en tout cas du bon professeur,
oui,
puisqu'on parle de bon goût, le
oui.
Bon est remis au goût du jour, et d'un Jacques Rouvier et de l'importance qu'il a pu avoir dans votre parcours. C'est pas simplement d'apprendre, transmettre la technique, ni de pousser, valoriser ce don mécanique que peut avoir un pianiste, mais c'est aussi de vous aider à trouver le goût, la culture, l'intelligence. Et c'est ça, mettre sur les rails pour un professeur... avec son élève.
Pour moi, c'est ouvrir des portes aussi. Un grand professeur, c'est quelqu'un qui ouvre votre horizon et qui, au lieu de vous mettre devant un étal où vous avez trois ou quatre fruits, vous montre un étal où vous n'arrivez même pas à les compter tellement ils sont nombreux, tellement il y a de variétés. Donc pour moi, un grand professeur, c'est quelqu'un qui vous montre aussi, et on revient à ce que disait Drillon tout à l'heure, à quel point l'étendue des possibles en matière d'interprétation est large, si vous voulez. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, parce qu'on a des codes, parce qu'on a été bien éduqué musicalement, il y a effectivement des règles à respecter, mais on rétrécit beaucoup notre horizon. Le professeur, c'est celui qui, à la fois, va vous mettre des barrières, ou en tout cas des limites, mais qui, en même temps, à l'intérieur de ça, va vous dire « Mais regarde à quel point tout est possible à l'intérieur de ces limites-là. »
Et qui va vous aider à trouver votre personnalité musicale? En un mot, votre playlist intérieure, elle est composée de quelle musique aujourd'hui? De quel tube?
Ben, moi, je dois dire que oui, si on veut parler de tube, je trouve que ces œuvres-là, les concertos pour 2, 3, 4 claviers, sont des œuvres que moi j'écoutais quand j'étais enfant et qui ne me lassaient jamais et qui ne me lassent toujours pas aujourd'hui. Donc le fait de les avoir entendues, ressassées, le disque était rayé, ça ne m'a jamais fatigué, jamais.
Alors on va terminer avec un tube, un hit de Bach, extrait du concerto pour 2 claviers en ut mineur. Vivace. Et je vous dis merci beaucoup.
Merci à vous.
Et au revoir David Frey.